Là-haut, deuxième partie, chapitre 7. Flamand ne tarda pas à se féliciter d'avoir si prestement enlevé l'affaire du chemin de fer, car un incident survint dans les hautes sphères du monde qui n'aurait pas manqué de contrecarrer ses plans. On ne s'occupe guère là-haut de la grande politique. Pourtant, cette fois, la secousse fut si forte qu'on en fut tout ébranlé. Quelque caché qu'il soit dans les replis fermés de la montagne, les villages alpestres ne sont point des membres séparés du tronc national. Leur existence, à certains égards si particulière, demeure attachée par de solides liens à l'existence plus large de leur pays. Aussi, les patriotes de Valanche ne manquèrent-ils pas l'occasion de nettoyer, à tout hasard, leur Veterli, tandis que les diplomates discutaient, chaque soir, les solutions possibles du conflit devant l'échoppe du cordonnier. Peu de gens se rappellent encore aujourd'hui cette bruyante affaire. On oublie vite, et dans la succession des événements qui font de jour en jour vaciller l'équilibre instable de l'Europe, les plus récents ont bientôt effacé les anciens. Dans l'espèce, il s'agissait d'un policier allemand, qui, ayant voulu jouer sur territoire suisse un rôle d'agent provocateur, s'était vu arrêté, incarcéré, enfin expulsé par un arrêté du Conseil fédéral. Banal épisode de la guerre que le prince de Bismarck menait alors contre les socialistes, avec l'âpre violence et la brutale autorité de sa dernière manière. Insignifiante anecdote que l'histoire n'enregistrera pas. Les journaux de tout pays n'en furent pas moins remplis. Les chancelleries s'en préoccupèrent, la Suisse en fut agitée jusqu'au cœur de ses plus humbles villages. Formée de races diverses, entre lesquelles une longue habitude historique sert de ciment national, la Suisse possède à un haut degré le sentiment de sa dignité et l'amour de son indépendance. Dans les classes intelligentes, ce sentiment ne va pas sans certaines inquiétudes qu'expliquent trop bien les transformations successives de la carte d'Europe, la constitution des grandes nationalités, la disparition des petits États. Dans la classe populaire, il en est autrement. Les souvenirs des légendes de l'histoire nationale et des batailles gagnées contre des voisins 10 fois plus puissants ont créé et entretiennent un état d'esprit assez particulier. Les montagnards sont tous soldats. Chaque année, ils endossent leur uniforme pour aller passer quelques semaines ou quelques jours dans les casernes de la plaine. Le reste du temps, ils suspendent leurs armes dans leur meilleure chambre, dont elles sont souvent l'unique ornement. Et le dimanche, ils décrochent leurs fusils pour faire des cartons au stand de leur endroit. Ils aiment leurs devoirs militaires, qui sont à peine une charge. Tireurs de père en fils, ils manquent rarement le noir. Aussi sont-ils remplis de confiance en leurs forces comme en leurs droits. Ils ne se disent point que les conditions de la guerre ont changé, que leur adresse et leur courage ne sont peut-être plus des armes du même prix. Ils ne dressent pas le calcul des contingents formidables des grands États voisins. Ils demeurent simplement les fils des anciens guerriers qui maniaient si vaillamment l'arbalète et la hallebarde, d'un héroïsme imprévoyant, instinctif, résolu, que nul argument technique ne saurait ébranler. Et ils attendent sans peur que sonne à l'horloge de l'histoire, si elle doit sonner un jour, l'heure où leurs carabines et leurs dieux auront à les défendre. À Valanche, personne ne voit plus loin, pas même les malins comme Petit Gris ou le président Combe. Dans le cas particulier, d'ailleurs, ces idées-là suffisaient amplement, et l'on se réunissait, après le travail du jour, plus nombreux que de coutume, pour lire en commun les nouvelles dans la Gazette de Lausanne, et pour les commenter. Bien des choses restaient obscures, mais on discutait quand même, en s'étonnant de tant de bruit pour un mouchard. Les premiers temps, les réflexions étaient très simples. Elles se ramenaient à un mot de vieille Suisse, qui était évidemment le mot de la situation. « Tout ça ne nous regarde pas. Nous avons un gouvernement, c'est pour qu'il arrange ces affaires-là. » Nul ne songeait à contester ce principe, pas même les libéraux les plus avancés. Au contraire, chacun renchérissait d'éloges et de confiance. Ils disaient tous « Et notre gouvernement est un fameux gouvernement. Il n'y a rien que des hommes entendus, qui ont de l'expérience. D'ailleurs, tant qu'on aura Charles Guay au Conseil fédéral, on peut dormir sur ses deux oreilles. » Mais, comme l'incident ne se réglait pas, des inquiétudes leur vinrent. « Jamais on n'a tant parlé de nous !» disait le président que ce bruit touchait. À lire chaque soir la traduction des articles foudroyants de la presse allemande, puis les réponses raisonnables de la Gazette et des autres journaux, à voir que cela continuait ainsi et recommençait sans cesse, on se sentait vaguement menacé. Les malins hochaient la tête en disant « Ça se gâte !» sans comprendre pourquoi d'ailleurs, sans pouvoir suivre les dissertations savantes des spécialistes sur la question de la neutralité ou sur celle du droit d'asile. Un soir, entre autres, il y eut chaud d'émotion. Ils étaient là, sur la place, fatigués de leur rude journée, car des menaces d'orage les avaient excités à rentrer leur foin à grand voyage. Aussi ne pensaient-ils guère à Bismarck et à son agent. Ils reposaient leurs échines et leurs genoux en bavardant avec Volant, qui s'informait de leur récolte. Et justement, ils avaient un autre sujet de conversation, la mésaventure d'Alexis Poncher avec son cochon. Ce fut Balthazar qui en avait été témoin, qui la raconta. Il pouvait être 9 ou 10 heures du matin. Je me trouvais au col de la Vergette, comme ça, par hasard. Il cligna de son œil unique avec malice. Quand je vois arriver Petit Gris avec son cochon. Il a fini de rentrer ses foins, lui qui est toujours en avance, et il voulait amener sa bête à Ververine. Une belle bête, ma foi, bien grasse pour la saison. Mais quand il voulut la faire descendre par le sentier, où pourtant les vaches passent, plus moyen. Alors il commence à le flatter, à le cajoler, à lui dire des douceurs. « Mon petit, mon mignon, mon joli !» Bernique, le caillon, grognait et se retournait toujours. Petit Gris essaye de le tirer par la patte, ça ne va pas mieux. Moi, je rigolais de voir ça. Petit Gris m'appelle pour lui donner un coup de main. Mais le caillon se débattait et hurlait comme s'il avait été sur le trébuchet. Je dis « N'y a pas moyen, il ne veut rien entendre. » Alors voilà mon Petit Gris qui se met dans une colère épouvantable, sacrant comme 3 charretiers de Serviaise. Mais il n'osait pas trop taper sur sa bête. Il sait bien que les cochons, ça n'est pas des animaux comme les autres, et que quand on les contrarie, ça se met à tourner sur place, et ça crève tout d'un coup. Je lui dis « Prends garde, Alexis, ça va mal finir. » Et le caillon commençait à s'agiter, à grogner, à fouiller la terre avec son groin. Alors Petit Gris rentra ses jurons, et il a fini par s'en retourner, en sacrant en dedans, tout pâle de colère. Ce qu'il va falloir qu'il se confesse pour tous ses jurons. Il riait encore de cette histoire, quand arriva Pierre Poigne, le maître d'école, avec le journal du soir. Car Pierre Poigne, un petit homme tout en air, qui parlait d'une voix de crécelle, en tortillant entre le pouce et l'index les pointes de sa moustache rousse, connaissait les empereurs, les rois, les ministres, comme s'il leur eût appris l'alphabet. Depuis le commencement du conflit, il s'agitait comme si ses faits et gestes eussent pu changer quelque chose à la marge des événements. Il leur montra la Gazette et se mit à leur lire un article qui disait « La neutralité de la Suisse ne pourra guère être respectée dans une guerre entre l'Allemagne et la France. La protection des traités ne sera pas suffisante pour prémunir ce pays contre un partage. La Suisse italienne est le seul équivalent qu'on puisse donner à l'Italie pour l'indemniser des sacrifices que la Triple Alliance lui occasionne. La ligne du Gothard sera alors non seulement une communication commerciale, mais une communication militaire entre l'Italie et l'Allemagne. Quant à la France, on pourra lui donner la Suisse française, comme compensation pour la perte de l'Alsace-Lorraine. Cela ferait peut-être revenir la France de ses idées de revanche, surtout si cette compensation lui venait de l'initiative de l'Allemagne.
« Voilà ce qu'ils disent !»
s'écria Pierrepoigne en tapant sur le journal.
« Vous voyez, c'est là, noir sur blanc. »
« Qui est-ce qui dit ça ?» demanda François-David Poncher, qui, optimiste comme toujours, n'en croyait pas ses oreilles. Poigne expliqua.
« Eh bien, c'est les nouvelles de Hambourg, parbleu !»
Il y eut un silence. Tous pesaient les paroles qu'ils venaient d'entendre et réfléchissaient. Enfin, Maurice Combes dit
« Un journal, ça ne prouve rien. Les journaux, ça ne sait pas seulement toujours bien ce que ça veut dire. »
« Mais celui-là, dit Volant, c'est le journal de Bismarck. Quand il écrit quelque chose, c'est parce que Bismarck veut qu'il l'écrive. » Ils se turent de nouveau, inquiets.
« Diable !» exclama Gaspard Clévoz.
Joseph Cascaté ajouta
« Oh, ce Bismarck !»
Nantelme, dont l'imagination s'emballait, insinua
« Alors, ça veut dire qu'on va nous couper en morceaux ?»
À cette idée, Balthazar éclata de rire.
« Qu'ils y viennent voir ! Nom de nom ! Ils le verraient voir !»
Il avança son poing fermé pour menacer les ennemis invisibles. Nantelme revint à son idée.
« Et tout ça, pourquoi ? Parce que des tas de socialistes, d'anarchistes, de nihilistes viennent faire leur complot chez nous. Est-ce qu'ils ne pourraient pas rester dans leur pays, ces gens-là ? »
Vieille Suisse, qui ne parlait presque jamais, dit alors
« Bien sûr qu'il ferait mieux de rester chez eux. Mais quand ils sont chez nous, personne n'a plus rien à leur dire. »
Tous approuvèrent. C'était le droit d'asile, le droit entre tous sacré, d'offrir son foyer aux persécutés, aux coupables. Un droit auquel on tient plus qu'à sa vie, parce qu'il est comme la sanction suprême de l'indépendance et le gage de la liberté. Pierrepoigne ajouta
« C'est justement ce que Charles Guay leur a dit hier à Berne. »
Reprenant le journal, il le parcourut jusqu'à ce qu'il eût trouvé le morceau qu'il cherchait.
« Voilà ce qu'il leur a dit, » reprit-il. « Écoutez.
Quant aux mesures à prendre contre les fauteurs de désordre,
les fauteurs de désordre, vous comprenez, c'est les socialistes, les anarchistes, les nihilistes, tous ces gens-là, quoi.
Quant aux mesures à prendre contre les fauteurs de désordre, nous n'avons à les discuter avec personne et devons nous réserver de les prendre en vertu de notre libre arbitre. Ce sont là des questions d'ordre intérieur dans lesquelles nous ne pouvons admettre, comme État souverain, aucune ingérence étrangère. Voilà ce que Charles Guay leur a dit. C'est clair, ça, hein? Et c'est tellement juste. Les regards se portèrent vers le père Clévoz, comme si l'on eût attendu qu'il prononçât encore un mot décisif. Mais probablement qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire, car il se contenta de tirer deux ou trois grosses bouffées de sa pipe et garda le silence. Peut-être aussi qu'il retournait dans sa vieille tête paisible le problème qui, à cette heure, empêchait les diplomates de dormir, et que pas plus qu'eux, il n'en trouvait la solution. Poigne, avec son esprit vif, aperçut un nouveau côté de la question. « Moi, fit-il en prenant son air fin, je crois qu'il y a autre chose. »
« Que veux-tu qu'il y ait ? » demanda Joseph.
« Cette histoire de police et de socialiste, ça n'est pas bien clair. Plus j'y pense, plus je crois que ça n'est qu'un prétexte. Je vous dis qu'il y a autre chose. »
« Et quoi ? » ?»«
Ah, voilà. Ce Bismarck est un sacré malin qui ne pense qu'à mal faire. Il a dû se dire à peu près comme ça. Il y a par là un petit pays, un beau petit pays qui est libre depuis des siècles. Hé, hé, il serait bon à prendre ce petit pays pour arrondir le mien. Alors, vous comprenez, on nous cherche une querelle d'Allemands. Leurs journaux crient en attendant qu'ils nous tombent dessus, voilà tout. »
Balthazar répéta son geste et ses paroles avec plus d'énergie.
qu'ils y viennent voir. Nous n'avons pas peur d'eux. Pourquoi est-ce que nous aurions peur d'eux? Nous sommes assez forts pour nous défendre. Moi, d'abord, j'en démolirai bien une quinzaine avant d'y passer. Si chacun en fait autant, il n'en restera pas beaucoup. »
Le curé qui s'était approché d'eux, bien qu'il ne s'arrêtât pas souvent avec ceux qui babillent sur la place, les écoutait depuis un moment.
« Mieux vaut prier Dieu d'éloigner la guerre, » dit-il gravement.
« Bien sûr, monsieur le curé, » fit Joseph, « mais que voulez-vous? Avec ce Bismarck, il faut s'attendre à tout. Et si la guerre vient tout de même ?»
Le curé fit un beau geste de confiance et de résolution.
« Alors, » dit-il, « si la guerre vient, nous ferons tous notre devoir, et comme ce n'est pas nous qui l'aurons cherché, Dieu sera avec nous. »
Il redressa sa haute taille. Avec sa tête fière et son corps vigoureux sanglé dans sa soutane, il faisait penser aux prêtres guerriers de son histoire, à ces évêques de Sion qui conduisaient leurs paysans au combat et bataillaient comme des reîtres. La nuit était venue. La lune les éclairait tous, comme dans le tableau légendaire où elle prête sa clarté au serment de Grutelet. Calme, franc, résolu, il semblait à la veillée des armes. La scène recommençait chaque soir, variant à peine les propos selon la couleur de l'orage. Un jour, Pierre Poigne, dont l'imagination fermentait sans cesse, apporta une nouvelle idée, et celle-là leur parut à tous si simple et si juste qu'ils s'étonnèrent de ne pas l'avoir eue en temps utile. Cette idée, c'était que l'étroite vallée de la Tause, qui relie la vallée du Rhône à celle de Chamonix, devait avoir une importance stratégique. Ce que le petit homme démontra comme un général en dessinant une carte dans la poussière avec son bâton. Alors, tout s'expliquait. Le chemin de fer, son tracé compliqué, l'ingénieur en chef allemand, qui connaissait maintenant le pays comme s'il l'avait fait, même certains propos mystérieux du gros flamand, qui se cachait depuis quelques jours comme un malfaiteur. Quand Pierre Poigne eut achevé sa démonstration, il y eut un moment de silence. Puis Nantelme triompha.
« Je vous le disais bien, moi, qu'il y avait quelque diablerie par là-dessous. Ils nous ont mis dedans, ces banquiers et ces ingénieurs, avec leurs fausses paroles. Vous vouliez enrichir le pays, vous l'avez livré à ses adversaires. Voilà ce que c'est que d'être ambitieux. »
Les amis du progrès baissaient le nez, comme s'ils se sentaient coupables d'une trahison qu'ils auraient commise à leur insu, par cupidité ou par faiblesse. Pourtant, Joseph Cascaté, le plus intraitable, essaya de répondre.
« Tu fais des phrases, Nantelme, et les Prussiens ne sont pas encore là. »
Nantelme répliqua en s'échauffant.
« Des phrases? Est-ce que c'est des phrases, ce qu'il y a dedans le journal? On nous y traite de barbares, on nous y dit des injures, on nous menace de nous couper en morceaux, et on voit bien que Bismarck manigance quelque chose contre nous. Tu ne comprends donc rien, toi. Tu ne penses qu'à voir des hôtels et des locomotives, comme s'il n'y avait pas autre chose au monde. »
« Bah !» fit Joseph en haussant les épaules. « Tout ça, c'est des idées. Moi, je dis que ces affaires s'arrangeront et que Bismarck ne veut pas nous prendre. »
« N'empêche qu'on n'est pas tranquille, » fit Balthazar.
De son ton le plus sentencieux, le président prononça.
« Heureusement que le chemin de fer n'est pas encore fait. »
Alors ils se turent ensemble, réfléchissant chacun pour soi, cherchant des moyens de revenir sur leur vote ou de gêner la compagnie. Et les prétextes ne leur auraient pas manqué, pour sûr, car on est retors là-haut quand il faut l'être. Mais l'orage s'éloigna. Les diplomates, qui sont là justement pour arranger ces sortes d'affaires, trouvèrent moyen de tout concilier. Il y eut encore des articles pleins de venin dans les journaux allemands, de grandes réponses de la Gazette. Puis la dispute cessa, et l'on apprit que Bismarck et Charles Guay s'étaient mis d'accord. Nantelme jugeait que, malgré les apparences, ça ne pouvait pas être fini. Les autres se réservèrent encore quelques jours avec leur prudence accoutumée. Puis, un soir, on enterra la question. « Alors, cette affaire, demanda Balthazar, ces articles, ces discours, tout ce tapage, enfin, ça n'était donc rien ?»«
Est-ce qu'on sait ?» fit Nanthelme.
Pierre Poigne expliqua, de son air entendu, « C'est la politique. » François Combes, qui était une espèce de philosophe, résuma l'impression générale en disant « Drôle de gens, tous ces gaillards-là. »
« Oui, drôle de gens. Ces rois, ces ministres, qui tiennent dans leurs mains la paix du monde et qui en jouent comme des enfants avec une pomme. Drôle de gens, ces journalistes qui écrivent aujourd'hui blanc, noir demain, prédisant la guerre et les catastrophes comme s'ils lisaient à venir dans un livre, sans en savoir plus long que le premier venu. Drôle de gens, ces révolutionnaires qui en peuvent pas rester chez eux et qui viennent faire du vacarme chez leurs voisins. Drôle de gens, en somme, tout le reste du monde, qui s'agitent comme des malades que travaille la fièvre, alors qu'il est si facile d'être tranquille et content de son sort quand on a du pain tous les jours. » Un des résultats de l'incident fut de retarder la venue annuelle de Charles Guay. On l'avait attendu dès la mi-juillet. Maintenant, on savait qu'il ne monterait plus qu'après la fête des vignerons, qu'on allait prochainement célébrer à Vevey, et à laquelle il devait assister. Depuis le commencement de la saison, à Valenches, on parlait de cette solennité, dont l'éclat rayonne sur la Suisse entière. Beaucoup de personnes comptaient s'y rendre. Tous les habitués du chamois, plusieurs étrangers, les notables du village. Volant en disant des merveilles, et ses propos évoquaient en sternis de lointains souvenirs de sa petite enfance. Il avait 4 ou 5 ans, peut-être. Bien que les spectacles du monde passassent encore sans laisser de traces dans ses yeux d'enfant, comme des vols de nuages au-dessus d'une eau claire, son père voulut qu'il assistât à cette fête que chaque génération ne célèbre qu'une fois. D'autres spectacles plus célèbres, rendez-vous classique de la badauderie européenne, en avaient plus tard effacé le souvenir. La fête des vignerons, ces mots qui font palpiter les cœurs de tous les habitants du bassin du Léman, n'éveillaient en lui que de confuses images. Et voici qu'à force de les entendre répéter avec une sorte de ferveur pieuse, ces images se précisaient au fond de sa mémoire. Il revoyait des rues étroites, enguirlandées et pavoisées des drapeaux des 22 cantons, des soldats, les bons miliciens du vieux temps avec leurs hauts képis, leurs larges épaulettes, un tambour-major formidable, en bonnet à poils, qui lançait à la hauteur des toits sa canne à pommeau d'argent, un cortège bigarré où défilaient des déesses couvertes de fleurs, un jeune dieu couronné de pampres, des moissonneuses, des vendangeuses, des bacchantes. À mesure qu'elles reparaissaient plus nettes, ces images ramenaient d'autres souvenirs, rappelaient des figures plus familières, disparues depuis longtemps. Son père, qui pleurait au spectacle parce qu'il y revoyait sa jeunesse, une grand-mère très vieille, en cheveux blancs, dont les mains ridées caressaient doucement ses cheveux bouclés, deux tantes qui le gâtaient, mortes toutes les deux. Ceux qui s'étaient penchés sur sa petite âme pour la regarder fleurir, ceux dont l'affection épiait ses sourires et se réjouissaient de ses émerveillements, ceux qui le prenaient sur leurs genoux, le tenaient par la main, essuyaient ses larmes. La famille, en un mot, dont la disparition avait fait de lui un être isolé dans le vaste monde, sans racines dans aucun sol et de si peu de foi. Ainsi, les liens de son enfance reformaient autour de lui leur chaîne aux anneaux bienfaisants, et cette chaîne, il se reprenait à l'aimer. Il brûlait de la mieux reconnaître, de la mieux sentir, en sorte qu'il finit par partager l'impatience commune, l'attente frémissante de ce spectacle qui leur apparaissait à tous comme une fête et comme une joie. Et, comme son cœur se dilatait à ses pensées, il combina son déplacement avec la visite qu'il comptait faire à l'Estral.
rempli d'espérance, prêt à des rêves de bonheur qui faisaient s'épanouir ce qui lui restait de jeunesse, il partit d'abord pour la station fameuse où il se croyait sûr de retrouver Madeleine. Un long chemin de fer, dont la locomotive soufflait bruyamment comme un poumon malade, le conduisit le long d'une rivière au cours tumultueux, dans une de ces vallées qui circulent comme des veines à travers le massif alpestre. Ses yeux reposaient sur la verdure des pentes ou sur des forêts où les arolles mêlent aux sapins leurs puissantes silhouettes. De temps en temps, un grand sommet neigeux se dessinait au bout de l'horizon. Mais quelques tunnels coupaient brutalement le paysage. L'on ne voyait plus que la lanterne des wagons où résonnaient les gros rires d'un groupe de touristes allemands. Alors, en regrettant le paysage évanoui, la rêverie arrêtée, Julien songeait que ces chemins de fer de montagne, construits à grands frais à travers tant d'obstacles, sont une image exacte de la vie, telle que la civilisation l'arrange. Pour faire le chemin plus vite, à meilleur compte, on en supprime toute la joie. On arrive au terme sans fatigue et sans plaisir, en ignorant les plus beaux aspects de la route, sans avoir savouré les délices des haltes bienfaisantes au bord de l'eau, dans l'ombre fraîche, devant les splendeurs de l'espace. Au premier coup d'œil, l'estral déplut à Julien. Il n'y sut voir qu'un de ces belvédères naturels qui semblent arrangés de main d'homme, comme Zermatt ou la Chédec, tant les moindres détails concourent à l'effet de l'ensemble. Du reste, il ne regarda pas d'abord le paysage. Au buffet même de la gare, il demanda le journal des étrangers, se hâta de le parcourir et n'y trouva pas le nom des vallées. Il ne voulut pas croire à sa déception. Il courut les hôtels, s'informant d'eux en vain. Nulle part on ne connaissait personne de leur nom. Il n'eut plus d'autre idée que de quitter au plus vite ces lieux où il s'attristait, et s'en alla déjeuner au grand hôtel, en attendant l'heure de son train. Comme il prenait son café sur le perron, dans la véranda, en regardant à la ronde les figures inconnues qui l'entouraient, Julien aperçut Rarogne, en veston noir, en gilet blanc, qui se mêlait à la foule de ces étrangers, causant avec l'un ou l'autre, dérangé de minute en minute par son secrétaire ou ses portiers. Rarogne, tels ces bons généraux qui se rappellent les plus humbles parmi leurs soldats et sont toujours prêts à leur réciter leurs états de service, reconnut Julien, l'aborda, bonhomme et familier, et tout de suite « Eh bien, comment trouvez-vous l'estral ?» Julien dit froidement « Très pittoresque. »«
Très pittoresque ?» s'écria Rarogne. « Seulement, voyons, regardez ce panorama que vous avez là devant les yeux. Dites-moi si l'on peut imaginer un spectacle plus admirable. »
D'un geste circulaire, il embrassait les pentes clairsemées de chalets, de sapins, d'éboulis. Un grand glacier dont la blancheur rutilait sous le soleil, le pic des ténèbres qui crevait le ciel de sa corne formidable en rocher blond, poudré d'une fine couche de neige. Le geste achevé, sa main s'engouffra dans sa poche, comme s'il y fourrait pêle-mêle tout l'horizon, et il dit, d'un ton autoritaire qui ne souffrait pas la réplique,
« Une montagne comme le pic des ténèbres, monsieur, vous ne pouvez chercher, il n'y en a pas. Elle est unique, entendez-vous? Unique! Et c'est moi qui l'ai découverte, monsieur. C'est moi qui ai le premier compris la beauté de l'estral. »
Julien répondit, en remuant son café avec un peu de nervosité,
« Il y a du mérite. »
Rarogne continua.
« Mais cela, c'est l'ouvrage du bon Dieu. Moi, j'ai fait ceci. »
Retirant la main de sa poche, il dessina un second geste, un geste de créateur, plus restreint à la fois et plus possessif, un geste qui désignait ce que les hommes ont su mettre dans cette magnificence. L'entassement des hôtels, avec leurs volets verts, leurs vérandas, leurs cours, leurs jardins plantés de jeunes platanes. Une lignée de boutiques, une librairie chargée des volumes de la collection Tauchnitz, de vues suisses, de reproductions de quelques tableaux célèbres. Un fleuriste étalant des paniers de rhododendrons et des croix des Delwes. Un bazar avec ses sculptures en bois, sa poterie, sa verroterie, toute la petite bimbeloterie des souvenirs. Une chapelle anglaise qui faisait vis-à-vis au grand hôtel, et que, sans ses ogives, on eût prise pour une dépendance de l'immense bâtisse. Et aussi les gens, un groupe de guides qui fumaient en causant entre eux, trois ou quatre touristes autour d'un mulet que montait une grosse dame, un gendarme magnifique, astiqué de frais, avec un baudrier éblouissant, des gants immaculés, aussi majestueux en son genre que le pic des ténèbres. Raroigne répéta « Oui, monsieur, j'ai créé tout cela. » Il ajouta « Et j'en ferai autant de valanches, c'est moi qui vous le dis. » Julien frissonna. La vision d'un valanche arrangé selon cette image vint lui rendre plus désagréable encore le paysage, pourtant si beau, de l'endroit fameux. Chapitre 8. Sur les gradins du vaste amphithéâtre, à l'air libre, avec pour décor les lointains bleus du lac et la ligne des Alpes aux belles découpures, sous la chaude caresse du soleil qui venait enfin de chasser un vol menaçant de nuages, la foule frémissait d'enthousiasme et d'émotion. C'est que l'abbaye de la confrérie des Vignerons, dernière tradition d'un passé très ancien, est à la fois un spectacle très beau et une fête très joyeuse. La représentation que, quatre ou cinq fois dans un siècle, un peuple laborieux se donne à soi-même de sa vie et de son travail, idéalisé par la musique, par les danses, par la gaieté des costumes, par la grâce des vieux symboles. Elle déroule un drame éternel et simple, dont la banalité renferme pourtant la source de toute poésie, la succession des saisons, et n'en retient que les sourires. Faneuses ni moissonneuses ne redoutent les mauvaises pluies qui viennent si souvent pourrir leurs récoltes. Les vendangeurs ne savent rien de l'oïdium qui sèche leurs grappes, du mildiou qui flétrit leurs feuilles, du phylloxéra qui ronge leurs ceps. Les bergers, peu soucieux de la clavelée, chantent les vers candides où l'âme triste de Jean-Jacques a mis son rêve idyllique. Allons danser sous les ormeaux, animez-vous, jeune fillette, allons danser sous les ormeaux, bergers, prenez vos chalumeaux. Si l'orage menace, c'est pour s'enfuir aussitôt. En sorte que les saints travaux de la terre, avec leurs déceptions comme avec leurs espérances, soucis des semailles incertaines, fatigue du labour sous les pluies automnales ou des moissons sous la brûlure du soleil, gaieté des vendanges heureuses devant le mou qui pétille au fond des cuves, ces simples travaux où s'absorbent les existences qu'ils usent et renouvellent, se changent en danse légère, en fanfare sonore, en chansons qu'ont entonnées les générations passées et que les générations futures chanteront encore, aussi longtemps que la terre récompensera par ses largesses les sueurs qui la fécondent. C'est ainsi qu'aux yeux de tous, habituellement inattentifs à l'invisible poésie qui les enveloppe, les berce, les nourrit, surgissent, une fois au moins, les charmes secrets de leur paisible vie. Un enchantement de quelques heures leur découvre les trésors que recèle l'accomplissement des humbles devoirs quotidiens, la beauté des travaux modestes qui hâlent leurs visages et durcissent leurs mains. Antique symbole rêvé par les lointains ancêtres, les amicales divinités aux belles formes terrestres, couronnées de fleurs, d'épis ou de pampres, qui sont à la fois les saisons de l'année et les âges de la vie, s'unissent pour remplir les cœurs d'allégresse. D'autres figures se meuvent parmi ces allégories, des guerriers des temps héroïques, au pourpoint marqué de la croix blanche, aux toques crénelées qui balancent le panache rouge et blanc, aux longues hallebardes. C'est l'âme de la patrie qui passe avec eux, qui s'exaltent au son de leurs fifres et de leurs tambours. Elle vibre autrement encore, cette âme fidèle et vaillante, quand s'avancent les somptueux armaillis pour chanter le Ranse immortel. On dirait alors que l'Alpe descend de ses hauteurs, avec la beauté de ses étendues, ses souffles d'air frais, ses parfums de fleurs et de plantes, avec la vie laborieuse, recueillie et lente, courageuse et saine, qu'elle cache dans les replis de ses vallées. Les strophes naïves se développent au gré de leur rythme grave, coupé de « ha, ha » et de « lioba », comme un chant national qui serait un cantique de paix. Et, sous l'éclat du soleil, dans la magnificence du paysage, un cœur unique bat dans toutes les poitrines, un cœur soudain purifié de ses tâches, élargi, généreux et tendre, le noble cœur que devient le cœur des foules quand un grand poète a su le toucher. Sur les gradins supérieurs des estrades, perdus parmi les 10 000 spectateurs, il y avait le petit groupe des Valenchais, descendus de leur village après bien des hésitations. Le président Combes, digne et attentif, Joseph Cascaté et Gaspard Clévoz, venus ensemble, parce que des hommes de progrès ne doivent manquer aucune occasion de tout voir. Élise allait, entre ses deux jumelles qui se serraient contre elle, effarée par le spectacle. Nantelme, exubérant d'enthousiasme, 5 ou 6 autres encore, et cette luronne de Friskin Jordan qu'ils avaient eu la stupéfaction de trouver à la gare de Serviaise et qui s'était jointe à eux d'un air tout naturel, comme s'il était séant que des gamines de sa trempe quittassent leur maison pour s'en aller courir le monde. Au moment où elle allait prendre son billet, le président lui dit avec des yeux terribles « Alors, tu t'en vas aussi à Vevey, toi ?» Sans se troubler, elle répondit en souriant de ses yeux malicieux « Eh bien, oui, j'y vais aussi. »« Et pourquoi faire ?»« Eh bien, pour voir !» Dans le train, comme on la regardait un peu de travers, elle s'était mise à rire et à plaisanter, en sorte que, la gaieté venant, ils avaient fini par rire avec elle et la trouver gentille. À cette heure, elle ne riait pas, elle ne plaisantait plus. Comme les autres, elle regardait, elle écoutait, émue sans savoir pourquoi. Plus près de la scène, clairsemée sur la grande estrade, on pouvait reconnaître Madame Sauge, sa vieille figure baignée de larmes, Mademoiselle Lechêne, Mademoiselle Baudoir, plus près encore, aux places d'honneur, Volant, et à côté de lui, Sterny, qu'il avait réussi à placer là. Comme les autres, plus que tous peut-être, Julien s'exaltait au spectacle, car il achevait d'y reconnaître sa vraie âme, si longtemps cachée à ses propres yeux. Comme déjà là-haut, quand il se mêlait au groupe des montagnards, mais avec une clairvoyance plus directe, il ne se sentait plus qu'un imperceptible atome d'un être collectif, et un grand bien-être lui venait de dépouiller ainsi son obsédante personnalité, d'échapper aux tyrannies de son moi despotique, de noyer sa vie dans celle de la foule, comme un ruisselet va se perdre dans un fleuve pour rouler à flots plus larges à travers l'inconnu des mouvants paysages. En même temps, apportées par le flux rapide de ses sensations, certaines idées, qui depuis quelques mois flottaient autour de lui, le pénétraient en se précisant. La poésie du travail, d'autant plus sacrée qu'il est plus humble, se révélait clairement à son oisiveté lassée d'elle-même. Son scepticisme de blasé s'ouvrait à l'enthousiasme dont il subissait la force aveugle et salutaire. Son indifférence frémissait comme une plante stérile que secoue un vent chargé de semences fécondes et qui n'a point de graines à jeter à son tour dans l'espace, en sorte que son être entier n'était plus qu'une aspiration passionnée vers l'infini de la vie, dont jusqu'alors la sécheresse de son âme, la paresse de ses jours, les médiocres orages de son passé, le séparaient, comme des haies de ronces qui coupent l'ampleur des vastes plaines. Au commencement de l'entracte, après avoir joint ses bravos aux acclamations qui jaillissaient de toutes parts, Sterny se retourna pour regarder la foule. Et voici qu'une émotion nouvelle, plus directe, plus ardente, vint ajouter son frisson à ceux dont les ondes le traversaient déjà. Sous une ombrelle bleue, il avait reconnu Madeleine. Elle le voyait aussi, car il sentit, glissant sur lui comme une caresse, le regard de ses grands yeux ardents et tranquilles, et il entendit leur muet appel. Sans calculer ses mouvements, sans répondre à Volant qui lui proposait d'aller se rafraîchir, il bouscula ses voisins, il enjamba des bancs, il fut auprès d'elle. Les valets qui entouraient la jeune fille de leur gendarmerie hostile accueillirent Julien avec une froideur à peine polie. Il ne s'en aperçut pas. Il vit seulement que le front de Madeleine s'éclairait sous son chapeau fleuri de bleuets, qu'un reflet de joie brillait dans le mystère de ses yeux. Négligeant toute formule préalable, il ne trouva rien à dire que ceci. « C'est beau, n'est-ce pas ?» Madeleine ne répondit pas. Les époux Vallée se consultèrent du regard, et M. Vallée prononça « Oui, c'est vraiment très bien. Un grand effet. Beaucoup de succès. » Mais Mme Vallée lui coupa la parole en se levant. « Nous allons nous rafraîchir. Adieu, monsieur. » D'un geste autoritaire, elle appelait sa troupe. Son fils et son mari obéirent avec une promptitude d'être bien dressés. Madeleine fut à peine plus lente. Un éclair de révolte avait passé dans ses yeux, qui s'éteignirent et se résignèrent. Julien, debout devant elle, lui tendit la main en disant tristement « Adieu, mademoiselle ». Elle le regarda bien en face, prit la main tendue et répondit, la voix ferme « Au revoir, monsieur ». Sa tante lui criait déjà « Dépêche-toi donc, Madeleine ». Avait-elle mis une intention dans son « Au revoir », mot d'espérance opposé à la tristesse de « L'adieu » Julien le crut d'abord, puis il en douta. Il se dit qu'il se leurrait d'illusion. Il s'adressa mille questions, mille reproches. Pourquoi ne leur ai-je pas demandé où ils dînaient après le spectacle? S'ils partaient dès ce soir, où ils passent l'été? Peut-être qu'ils vont disparaître, peut-être que je ne la verrai plus, plus jamais. Il s'en voulait de ne pas l'avoir suivi, en dépit du dragon qui la surveillait. Il les chercha, de groupe en groupe, à toutes les tables de la cantine et des cafés que la foule prenait d'assaut. Il se répétait, pour prendre courage, « Le hasard ne fait point les choses à demi. Si je l'ai retrouvé ainsi, c'est que son sort est lié au mien par des fils invisibles. Maintenant encore, elle est là, tout près, à deux pas. Je ne souffrirai point qu'elle s'envole ou s'évapore. » Pourtant, il la cherchait encore, dans la poussée des assistants qui regagnaient leur place, quand il sentit un bras se glisser sous le sien. C'était Volant, qui le gronda d'avoir disparu. « Mais qu'êtes-vous donc devenu? Vous avez filé tout à coup comme une anguille qu'on rejette à l'eau. » Les yeux brillants, Julien répondit, « C'est que j'avais aperçu des amis que je désirais beaucoup revoir. » Volant remarqua son exaltation. « Vous avez pu les rejoindre ? » demanda-t-il. « Oui, je les ai rejoints. Un instant, rien qu'un instant. Je n'ai pas pu causer avec eux comme j'aurais voulu. » « Vous les retrouverez sans doute après le spectacle. Il y a tant de monde, mais si peu de place. » Ils avaient regagné leur banc. Au lieu de s'asseoir, Julien se dressait sur la pointe des pieds, cherchant vainement à travers la foule le chapeau bleu de Madeleine. À la fin, des spectateurs qu'il gênait l'obligèrent à se rasseoir. Les derniers tableaux se déroulèrent sous ses yeux distraits. Les vignerons d'automne chantèrent leur joyeux refrain. Les bacchantes et les faunes, aux corps bruns enguirlandés de pampres, exécutèrent sur des rythmes fougueux leurs ballets échevelés. La noce villageoise déroula derrière les ménétriers son cortège aux couleurs des 22 cantons, qui se mit ensuite à valser sur l'air populaire du Lauterbach. Julien ne regardait plus, n'entendait plus. ses yeux fuyaient le spectacle pour chercher toujours, derrière lui, parmi les têtes confondues, celle qu'il se désespérait de ne plus voir. Son âme, un instant mêlée à l'âme collective, s'en détachait violemment, affamée de bonheur, tendue vers un unique objet. Les musiques n'étaient plus qu'un sourd accompagnement à l'orage qui se déchaînait en lui. Son imagination, épuisée à force de tourner dans le même cercle, ne formulait plus que de puériles idées. « Si je la retrouve, si je la vois seulement, c'est un signe du destin. Si je ne la revois pas tout à l'heure, oh mon Dieu, c'est que je ne la reverrai jamais. » Autour de lui, la foule acclamait. Puis, après les dernières mesures de l'hymne final, elle se tut peu à peu, comme une forêt où le vent a cessé de bruire pour se recueillir dans un silence religieux. Et dans ce recueillement, dans ce silence, s'éleva une voix sonore, celle de l'abbé de la confrérie, dont les moindres paroles traversaient l'immense amphithéâtre. Il dit la sainteté du travail, dont il mêla l'amour au culte de la patrie. Tous frissonnèrent quand le beau mouvement de sa péroraison réveilla le souvenir des récentes angoisses. Vigneron, chers concitoyens, nous avons pour devise ces mots, prix et travail. Travail, non comme le désespéré qui accomplit avec résignation une tâche ingrate, mais comme un homme libre, qui, à l'abri des institutions que le peuple dont il fait partie s'est librement donné, augmente son bien-être, élargit son horizon, améliore le sort de sa famille. Prix, c'est-à-dire relève vers le ciel ce front que ton œuvre journalière tient courbé sur la terre. Ouvre ton âme immortelle à tout ce qui est grand et beau. Aime ta patrie, ces lieux qui t'ont vu naître, ce sol qui t'a nourri, ces champs, ce lac, ces montagnes, et cette liberté, conquête de nos pères, que nous voulons léguer intacte à nos enfants. » D'immenses clameurs retentirent pendant que les vignerons, en chapeau de paille, en habits verts, en culottes blanches, s'avançaient pour recevoir les couronnes et les médailles, dont la louable confrérie récompense les soins donnés à leurs vignes. Puis le cortège se forma pour faire lentement le tour de la Seine, les vieux Suisses en tête, l'abbé portant sa crosse à manche d'ébène où s'enroulent des pampres d'or, et derrière lui, les déesses avec leurs troupes, le roi Bacchus, le gros Silène sur son âne, la noce. Volant se pencha vers Julien et lui désignant l'abbé. « Un ancien chef d'État, dit-il, cet abbé a joué son rôle dans les grandes affaires du monde. » Sterny ne songeait qu'à profiter du mouvement de la foule pour se retourner et chercher Madeleine. Tout à coup, il crut reconnaître son ombrelle bleue dressée au-dessus des têtes. Un remous des secteurs la lui cacha. Il quitta sa place. « Où allez-vous ? » demanda Roland. Sans répondre, il se frayait passage en jouant des coudes dans la direction de l'ombrelle bleue. Mais il ne la retrouva pas, en sorte qu'il ne sut pas même s'il avait revu Madeleine. Il suivit la foule qui s'amassait autour de la rustique cantine où l'on allait servir le banquet officiel. Il se glissa parmi les groupes, ému à chaque instant parce qu'il croyait la voir, désespéré parce que ce n'était pas elle. Il fouilla les rues où il ne rencontra que des visages inconnus, des visages joyeux, des visages d'insouciance et de plaisir, dont les regards parfois s'étonnaient une seconde de ses yeux inquiets où suivait, avec un éclair de pitié, son furetage plaintif de chien perdu. Aux abords de la gare, il aperçut Nanthelme qui se hâtait, son enthousiasme ne lui faisant pas oublier ses intérêts, pour rentrer un train avant les autres, qui pourraient avoir soif en passant devant sa cabane. Quelques pas plus loin, le groupe des Valanchets stationnait sous un arc de triomphe. Ils étaient curieux et graves, regardant toute chose avec lenteur, sauf cette petite folle de Frisquine Jordan, qui, le nez au vent, ses yeux mobiles courant dans tous les sens, frétillait, sautillait, pépillait, s'agitait comme un moineau. Puis il se retrouva devant la cantine, nez à nez avec Volant, qu'il ne voyait pas et qui lui frappa sur l'épaule.
« Enfin, vous voici. J'ai une carte de banquet pour vous. Allons, venez goûter nos choux et notre jambon. Vous verrez qu'on peut faire un bon dîner sans truffes. »
Mais, dit Julien qui voulait chercher encore,
« Oh, pas de mais, je vous en prie, il faut que vous fassiez la fête jusqu'au bout. »
Volant le conduisit à travers les tables et le fit asseoir devant une serviette en papier. Puis, remarquant le pli soucieux qui barrait son front, l'inquiétude de son regard, la nervosité de ses mouvements, il essaya de le distraire, lui montra Cérès qui causait familièrement avec un jeune homme en veston clair, lui nomma, l'un après l'autre, les convives de la table d'honneur.
« Ce grand vieillard, tout blanc, c'est l'ambassadeur de France, M. Emmanuel Arago. Voici M. de Bülow, le ministre d'Allemagne. Sa présence ici montre que l'orage a passé. Vous reconnaissez Charles Guay, vous l'avez vu l'an dernier à Valenches, où il doit monter ce soir même. »
Des choux fumaient dans leurs assiettes. Ils levaient la tête vers la tribune garnie de feuillages, où tour à tour ils allaient toaster en levant la coupe de la confrérie. Des faneuses en jupe bleue, des moissonneuses en jupe rose, des vendangeuses en jupe verte, des bacchantes échevelées tourbillonnaient autour de leurs redingotes, comme un essaim de papillons multicolores. Entre les discours qui se perdaient de plus en plus dans le brouhaha, l'orchestre jouait l'ouverture de Guillaume Tell, la valse de Lauterbach ou le rance des vaches. Et dans ce joyeux tumulte, autour de ces tables patriarcales que présidait, avec une éclatante bonne humeur, cet abbé vigneron, on entendait battre le cœur d'une grande famille, dont les frères dispersés se retrouvent pour célébrer quelques noces d'or. Volant s'étant éloigné au dessert pour saluer un groupe d'amis, Julien se leva de table et quitta la cantine. Un moment encore, il erra par les rues, où la foule se pressait moins compacte. Il se répétait avec une tristesse de plus en plus résignée « C'est fini, je ne la verrai plus. » Par moments, une voix intérieure lui fredonnait un refrain d'espérance. Il la faisait taire. « Non, non, c'est fini, bien fini. » Il cherchait quand même, les pieds fatigués, la tête vide, les membres rompus. Comme il passait devant le grand hôtel, il entra et demanda le registre des étrangers. Dans la longue liste des noms, il trouva « Monsieur Vallée, avocat et famille, Genève ». Hélas, arrivés la veille, ils étaient repartis aussitôt après la représentation. Ainsi, pour la deuxième fois, Madeleine disparaissait de sa vie, après l'avoir éclairée un instant. L'idée de la chercher ailleurs l'effleura. Il la repoussa en songeant « À quoi bon ? Que pourrait-elle être pour moi ? Si le hasard l'ôte de mon chemin, c'est un hasard amical qui veut m'éviter de souffrir davantage. » Mais en même temps que sa sagesse résonnait ainsi, une voix obstinée murmurait en lui « S'il n'existe entre sa destinée et la mienne aucun lien mystérieux, pourquoi l'ai-je revu ? Si elle ne sent pas ce lien comme je le sens moi-même, pourquoi m'a-t-elle dit « au revoir » ?» Le soir approchait. Sterny ne songea plus qu'à sortir de la foule, dont la gaieté de plus en plus bruyante augmentait son malaise. Il prit un des nombreux trains de retour qui partaient à toutes les heures et s'en allait lentement, en se vidant à chacune des stations rapprochées. À Serviez, parmi les voyageurs descendus en même temps que lui, il reconnut le grand corps et l'énergique tête brune de Charles Guay. Le chef de gare, les employés, le gendarme, les paysans se confondaient en saluts respectueux devant ce magistrat modeste qui venait prendre un mois de vacances, comme un simple expéditionnaire pour se reposer d'avoir, pendant 6 semaines, tenu tête à Monsieur de Bismarck et d'avoir eu le dernier mot. Ils se disaient l'un à l'autre, en le regardant, « C'est lui. Il n'est donc pas resté jusqu'à la fin. Sa famille est déjà là-haut, dans le chalet à César. On ne l'attendait pas encore aujourd'hui. Est-ce qu'il va monter en char ? Non, il monte toujours à pied. En effet, après avoir fait signe à un porteur qui se chargea de sa valise, rendu quelques saluts, serré la main du chef de gare, le président de la Confédération se mit en chemin. Ayant enlevé sa redingote, il marchait d'un pas souple, rapide, régulier, dont le rythme balançait son torse en bras de chemise, d'un bon pas de montagnard, qui ne pouvait manquer de le conduire à Valenches en moins de 5 quarts d'heure. Julien, parti en même temps, fut bientôt distancé. De lacet en lacet, il le vit passer au-dessus de lui, en s'arrêtant parfois pour s'essuyer le front, le rejoignit pendant qu'il se reposait sous un sapin, fut devancé de nouveau, et le retrouva dans la cabane de Nantelme. Charles Gay partageait une bouteille de fendant avec Testase, qui restait debout devant lui, son verre à la main, et raisonnait politique. « Par ici, monsieur Charles Gay, disait-il, tout le monde pensait bien que vous arrangeriez cette affaire. On ne comprenait pas tout, c'est tellement compliqué, ces histoires-là, qu'il faut être plus malin que nous pour savoir s'y débrouiller. » Il y avait l'agent de police, il y avait Bismarck, il y avait les socialistes, on y voyait goutte. Mais on disait, c'est monsieur Charles Gay qui mène l'affaire. Tant qu'il sera là, on n'a rien à craindre. Le président remplit des verres, qui étaient vides, et sourit. Si ce n'était pas moi, dit-il, ce serait un autre, et cela n'irait pas plus mal. Ce n'est pas parce que je suis là que vous pouvez être tranquille, mon brave Nantelme, mais parce qu'il faut toujours être tranquille quand on a pour soi le droit et la justice. Il en est pour les peuples comme pour les gens, qu'ils fassent leur devoir sans craindre personne, et le monde marchera bien. » Nantelme se gratta la tête en cherchant ses mots, car son idée ne venait pas toute seule. « Bien sûr, monsieur Charles Gay, dit-il. « Bien sûr, mais il y a des gens qui ne pensent qu'à mal faire, comme ces sacrés bougres de maçons qui sont par ici. Alors on n'est jamais sûr d'être en paix. Et je me dis souvent que c'est la même chose dans la politique. Tous ces grands ministres qui veulent faire des conquêtes, eh bien, c'est des gens dangereux. Les autres aussi, ces socialistes qui veulent tout corriger, tout refaire. Alors nous, qui ne demandons qu'à vivre tranquille et à bien conduire nos affaires, quand on voit que tout se trouble et se gâte. Enfin, comme je vous le disais, c'est comme avec ces maçons, on n'est plus en sûreté chez soi, quoi. Vous voyez bien que malgré eux, nous sommes là tous les deux, bien à notre aise, devant une bouteille de fendant, qui est fameux encore. À la vôtre, Nantelme. Ils trinquèrent et vidèrent ensemble leurs verres. Mais comme Charles Gay tirait son porte-monnaie, Nantelme protesta. « Ah non, monsieur Charles Gay, non, non, vous pouvez bien accepter un verre de moi, vous qui travaillez tant pour nous. » « Merci, Nantelme, à charge de revanche alors. La prochaine fois, ce sera mon tour. » Et il se remit en chemin, accompagné sur le seuil par Nantelme dont il serra la main, qui le suivit un moment des yeux et revint à Sterny en disant « En voilà un homme, celui-là. Aussi tout le monde a confiance en lui. Quand il dit « Vous pouvez être tranquille », eh bien, on est tranquille et on est heureux d'être ce qu'on est. » Il réfléchit un instant, secoua la tête et ajouta « Si seulement il n'y avait pas ceux qui veulent tout changer, tout déranger, tout bouleverser ».